Pour cette émission d'aujourd'hui, eh bien, nous aurons trois grandes parties. Nous terminerons avec une galerie qui présente des artistes chinois et donc une galerie belge. Avant cela, eh bien, nous aurons l'occasion de rencontrer une artiste très étonnante que je connais depuis 3 ou 4 ans maintenant. Je suis son travail depuis ce temps-là avec des formes très explosive parfois, et elle-même est très explosive. Vous allez la rencontrer dans une demi-heure, à peu près une demi-heure. Et avant cela, eh bien, j'ai un invité exceptionnel. Il s'appelle Antoine Dufilo et il est artiste. Il expose, il est exposé dans une galerie, donc à Lille Art Up, et il est aujourd'hui parmi nous. Bonjour Antoine Dufilo.
Bonjour René.
Alors, donc, on va présenter un petit peu le salon, peut-être un petit bilan de votre participation et comment vous l'avez ressenti en tant qu'exposant ou en tant qu'artiste dans une exposition d'une galerie. Mais aussi, bien sûr, on va entrer dans le détail de votre œuvre qui est très particulière et peut-être qu'on peut dire que l'originalité et les propos des artistes ont sans doute une grande importance dans l'art contemporain et surtout dans le marché de l'art, puisqu'en fait, un style unique, c'est un peu ce qu'est votre style.
Oui, tout à fait. Je pense que quand on fait de l'art, il faut faire des choses différentes. Il faut aussi savoir se renouveler. Moi, je travaille le métal et surtout, je travaille le vide. Et donc, je fais une association de plaques de métal ou de tubes de métal avec du vide, ce qui va vous donner de la transparence et un effet de vitesse, parce que je suis spécialisé dans les voitures et dans les bateaux. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de montrer la vitesse. C'est pas de représenter fidèlement les choses. C'est la vitesse, une accélération, un freinage, et tout ça avec une association de plein et de vide qui vous forme un effet cinétique et qui donne l'impression que ça bouge, alors que pourtant, c'est des objets qui sont statiques et qui ne bougent pas.
Alors c'est vrai que dans l'art moderne, hein, d'une manière générale, il y a eu des grands artistes, je ne sais pas si on peut appeler ça cinétique, si, qui ont transformé des œuvres en deux dimensions, voire en trois dimensions, en mouvement, ou restitué un mouvement dans des œuvres qui a priori sont planes. Donc il y a de grands noms, peut-être vous en avez quelques-uns en tête.
Oui, bah, Soto, qui est un des artistes que je préfère, qui travaille avec des tiges métalliques et qui travaille également le vide. Alors c'est avec des formes très simples, c'est des sphères qui sont en couleur et quand vous tournez autour, vous voyez un objet qui semble dynamique et qui semble en trois dimensions, alors qu'en fait ce ne sont que des tiges qui pendent avec des couleurs et qui rendent les choses assez zen et très jolies.
J'ai ressenti dans le travail que vous avez présenté, alors c'est plusieurs, on va dire plusieurs voitures symbolisées, hein, en trois dimensions, donc en matière, on va dire, que vous allez préciser, vous l'avez un peu exprimé, mais précise un peu les choses. J'ai ressenti beaucoup d'architecture dans ce que vous faites. Est-ce que vous avez au départ une formation qui amène à cela ?
Bah oui, justement, j'ai fait ça juste à côté d'ici, à Hôtel de Ville, à l'école d'archi de Lille. J'ai commencé d'abord à Saint-Luc à Tournai, et ensuite j'ai fini ma troisième, ma quatrième et ma cinquième à Villeneuve-d'Ascq, et j'ai été diplômé d'architecture donc en 2010. Et j'ai commencé à travailler comme architecte tout en m'initiant à la sculpture. J'y connaissais pas grand chose. J'ai appris un peu les choses sur le tas au fur et à mesure. C'était d'abord un hobby. Et puis ça a fini par devenir mon travail. J'ai laissé partir doucement l'architecture, juste des petits projets comme ça, pour mon atelier, pour des amis. Et peu à peu, après avoir été démarché par un galeriste parisien qui m'a repéré sur une expo à Paris, au Grand Palais, avec qui j'ai commencé en 2013 et avec lequel je travaille toujours, qui est à Paris, Place des Vosges. Voilà.
Donc quand on voit vos voitures, hein, en fait, elles ne sont pas comme une vraie voiture d'un seul bloc. Hein. On a plutôt une illusion d'objets plein, mais en fait non, tout est détaché.
C'est ça exactement. Alors il y a des modèles qui sont rassemblés par certaines pièces, où là je vais plutôt essayer de comparer ça à un corps humain. J'ai fait aussi une formation de médecin avant d'être architecte, et dans certains de mes modèles je vais comparer le métal à une ossature, le bois à une musculature, parce que je trouve que les nuances du bois me rappellent les nuances d'un muscle, et donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur ce genre de thématique. Mais il y a toujours du vide qui va les séparer de façon à rendre les choses aériennes et puis aussi dynamiques par cet effet de plein de vide qui forme un effet cinétique et qui donne vraiment l'impression que l'objet est en mouvement.
Voilà, donc on peut dire que... Il y a beaucoup de tubes, une architecture tubulaire.
Alors ça, c'est mes derniers modèles que j'ai fait avec des tubes. Là, cette fois, les tubes sont découpés et forment comme des espèces de pétales et donc viennent s'ouvrir et puis dessiner la voiture. On vient également creuser l'intérieur du modèle pour essayer de donner un maximum de transparence. Et là, ce qui se passe sur ces modèles-là, c'est que la transparence n'est plus transversale, elle est longitudinale dans le sens des tubes. Les tubes donnent une grande dynamique par leur direction. Et quand on se place devant l'objet, on ne voit plus rien, on ne sait même plus ce qu'on est en train de regarder. On voit une espèce de ruche, une espèce de nid d'abeilles. Et puis quand on tourne autour du modèle, d'un seul coup la voiture apparaît, ce qui fait qu'on découvre toujours des nouvelles choses en fonction du point d'observation et puis beaucoup de mouvements.
Alors c'est vrai que l'angle de vue est très important et permet de voir l'œuvre ou de l'appréhender de manière très très différente. Hein. Il suffit de faire un pas de côté.
Voilà, c'est ça exactement. Et la voiture se découvre, apparaît ou disparaît.
Voilà, donc vous avez plusieurs voitures, plusieurs modèles qui peuvent sans doute partir d'une réalité. Et vous avez des formats très différents. Vous avez des formats qu'on peut poser sur un meuble, on va dire, et d'autres qui nécessitent de l'espace.
Oui, bah, ça a commencé l'année dernière, enfin plutôt l'année d'avant. Je l'avais préparé pour l'ILARTOP 2019. Qui a été annulé, 2020 pardon, et je devais réaliser ma première sculpture monumentale qui elle est en plaque, pas en tube comme la dernière que j'ai présentée cette année, qui n'a pas pu être exposée là-bas mais qui a été exposée à la Baule et maintenant qui est exposée devant le casino, enfin devant l'hôtel barrière, le Westminster au Touquet, qui elle est en plaque et il faut de l'espace bien évidemment, mais ça permet d'avoir une appréhension de l'œuvre qui est complètement différente que des petits modèles. Là on peut vraiment rentrer dans l'œuvre. La dimension est humaine et ce qui fait que l'appréhension est vraiment complètement différente et je pense plus intéressante.
Donc si on regarde les œuvres de loin, on a une impression d'élégance aussi, de voiture racée, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
Oui, puis ça, ce qu'on a remarqué sur celle qui est au Westminster, c'est qu'en fait avec du dégagement, on a un peu l'impression de voir du velours, parce que ce qui se passe, c'est que les plaques accrochent la lumière différemment en fonction de leur position, d'autant que sur ce modèle-là, les plaques viennent suivre la forme de la carrosserie, et donc elles s'ouvrent un peu comme un éventail. Disons que les plaques ne sont pas toutes parallèles les unes aux autres, elles viennent s'ouvrir en fonction de la carrosserie, et cette ouverture fait qu'elles sont à un angle différent les unes des autres, et donc elles accrochent la lumière différemment. Et cette accroche rend la texture très étrange, et je vous dis, on dirait un peu comme un espèce de velours, on sait ce qui se passe finalement sur le velours, c'est les fibres ont des directions différentes, et donc accrochent la lumière différemment. Et c'est le cas de cette œuvre.
Donc vous avez fait un choix de voiture précis, je pense, par rapport à des modèles que vous aviez aimés. Comment ça se passe ?
Alors, depuis que je suis jeune, j'ai été baigné dans l'automobile. C'était une passion de famille que mon père a pris de mon grand-oncle Jacques et qui m'a transmis. Donc je fais des salons de voitures, j'ai des rallyes de voitures, du circuit, et donc je connais beaucoup de voitures qui me rappellent mon enfance. Et donc c'est ce que je représente en fait, des voitures qui sont emblématiques par leur grande course ou qui moi m'ont ému dans ma jeunesse ou que j'ai connu parce que mon père en avait. Et donc c'est ces voitures-là que je représente. Et en fonction du modèle, je choisis un type de conception. Je ne le fais pas au hasard. Je choisis un modèle et ensuite je décide comment je vais le réaliser. Je réaliserai peut-être un autre de cette manière parce que je trouve que ça convient. Mais je m'adapte à chaque fois à chaque voiture. C'est le cas de ce projet que j'ai présenté à l'ILARTOP qui était une 911. Le choix des tubes est voulu parce que ça correspond parfaitement au modèle. Ça le met en valeur et ça ne marchera pas forcément pour un autre modèle. C'est pour ça que je choisis toujours des conceptions différentes et que je me renouvelle régulièrement.
Est-ce que des fabricants de voitures pourraient vous faire des propositions de mettre en mouvement cinétique des voitures de leur gamme pour dire de les présenter de manière artistique ?
Peut-être, c'est pas encore arrivé. Je commence à avoir quelques contacts dans l'automobile. J'ai eu la chance de rencontrer Jean Todt, qui va appuyer une demande que je veux faire auprès de Ferrari. Et donc, c'est quelque chose qu'on est en train de préparer actuellement. Et voilà.
Alors si on fait un peu le bilan de ce salon ILARTOP, donc qui avait été reporté suite à l'année dernière où ça n'avait pas pu se tenir, cette année on a retrouvé un nombre j'allais dire, équivalent aux années précédentes en termes d'exposants, en termes de galeries, en termes d'artistes. Vous y êtes pour la première fois ?
Non, c'est la deuxième fois que j'y suis. Pour à ce que m'ont dit les organisateurs, ils ont eu deux fois moins d'influence que les autres années. Mmh. Il y a deux ans, on a eu 40 000 personnes. Là, on a eu 20 000 personnes. Personnellement, mon travail a bien marché et même deux fois mieux marché qu'il y a deux ans. Donc, j'ai pas à me plaindre. Mais il y avait visiblement moins d'influence.
Mmh. Je l'ai pas trop ressenti. Peut-être un peu normal dans la mesure où il y avait. Une restriction aussi du nombre d'entrées possibles. Il y avait aussi des mesures sanitaires à l'entrée. J'ai dû y passer pour présenter un test Covid négatif.
Bien sûr.
Donc ça peut freiner.
C'est sûr. Oui. Et je pense que justement, ça a freiné peut-être l'affluence. Après, en tout cas, pour ce qui est des ventes, je pense que les gens qui voulaient venir, les collectionneurs, sont venus. Et donc, d'un point de vue commercial, c'était pas un échec, quoi. C'est ça que je veux dire.
C'est vrai que c'est un investissement assez lourd pour un exposant, pour une galerie, de venir s'intégrer à ce dispositif qui est professionnel. Enfin, ce sont des stands commerciaux, d'une certaine manière. Hein. Donc, faut que ça fonctionne, quoi.
Bien
ça
sûr.
A un coût de frais pour la structure, mais aussi pour les exposants, il faut rentrer dans ses frais, quoi.
Bien sûr, oui, tout à fait. Puis c'est aussi une installation, une désinstallation. Le galeriste doit déplacer les œuvres sans les abîmer, les installer, les désinstaller. Donc je sais que ça a été assez lourd pour mon galeriste, mais il s'est très bien débrouillé.
Alors comment ça se passe pour une galerie qui a plusieurs artistes en présentation et aussi entre les galeries dans les espaces, surtout quand il y a eu, comme quand je suis venu, une soirée, on va dire, plus animée, celle du jeudi, hein, qui est souvent consacrée à des animations et nocturnes. Donc comment ce monde fonctionne ?
Eh bien, les différentes galeries qui sont invitées et qui viennent occupent leur stand, exposent leurs différents artistes. Après, bon, la plupart des galeristes sont des gens qui ont un minimum de goût artistique et donc choisissent des artistes qui sont faits pour coopérer ensemble et qui l'exposent de manière purement privilégiée et n'exposent qu'un seul artiste. Je trouve que c'est un petit peu dommage. La plupart des galeries exposent différents artistes différents qui coopèrent ensemble. Et puis après aussi, il y a ce côté commercial. Il faut exposer des œuvres au milieu, aux extérieurs. Donc il y a des tableaux et puis il y a des sculptures. Et puis ensuite, les différents stands sont les uns à côté des autres. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de coordination. C'est chacun choisit son stand et puis, entre guillemets, au plus offrant, en fonction des différentes tailles de stand, et puis s'installe, quoi. Et donc, d'un stand à un autre, il n'y a pas vraiment de... On s'entend bien, mais il n'y a pas de choix particulier. C'est au sein de chaque stand que les galeristes choisissent les artistes et comment ils veulent les exposer.
Voilà,
et
puis il y avait quand même un thème commun, hein, a priori, autour du textile.
Oui, cette année, j'ai cru comprendre, oui.
Oui, donc certains artistes sont venus pour ça, en fait, ont été sélectionnés, parce qu'il y a une sélection du salon aussi pour choisir les galeries, les artistes, et ceux qui peuvent aussi correspondre un peu au thème. Voilà. Donc je ne sais pas si on peut dire que les tubes, l'aspect tubulaire peut... Ça fait penser quand même à de la dentelle, hein.
Oui, bah c'est pour ça que je parlais un petit peu quand je parlais de pétales. Mais oui, on vient les découper, les vider, et donc à la fin, on obtient comme une espèce de dentelle. Le fait est que je représente des voitures, et là où ma première représentation en plaque me fait plus penser à l'architecture d'un moteur avec ses ailettes de refroidissement. Et donc ce que je dis, c'est que mes premiers modèles étaient plutôt, finalement, la voiture devient un moteur, que là, dans cet esprit tubulaire, la voiture devient plus un espèce de pot d'échappement, mais avec des aspects de dentelle ou aussi aux allures de ruche quand vous vous mettez dans l'axe, ça change, c'est assez dynamique et ça change tout le temps à chaque point de vue que vous avez de la voiture.
Voilà, donc ce salon Art Up édition 2021 est terminé. Vous allez démarrer d'autres projets, d'autres salons? Comment vous organisez?
Bah là, en ce moment, c'est assez obscur avec ce qui se passe. On ne sait pas vraiment quels salons vont avoir lieu. Moi, je travaille maintenant avec 22 galeries dans le monde. Et donc, je sais que j'ai une de mes galeries du sud de la France là qui me fera participer à un salon à Lausanne. Après, pour l'instant, les événements, je ne sais pas encore dans le détail. Il y aura Art Basel à Miami parce que ma nouvelle galerie de Miami y participe. Donc, je sais que j'y serai représenté. Mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, à part les nouvelles galeries avec lesquelles je commence, notamment Bel Air aussi à Saint-Tropez, où j'en vous je viens d'envoyer plusieurs modèles, une galerie au Luxembourg, une galerie à Saint-Paul-de-Vence également. Voilà. Donc c'est surtout des nouvelles galeries avec lesquelles je vais commencer, notamment aussi en Belgique, à Knokke-le-Zoute. Mais c'est des petites expositions au sein de ces galeries, c'est pas des grands événements pour l'instant, il y a pas, y a, toutes les choses se remettent en place doucement.
Donc Antoine Dufilho, vous êtes un enfant des Hauts-de-France. Est-ce que vous vous sentez porteur d'un message ou, je sais pas, d'une entité géographique ou humaine?
Non, pas forcément. Non, pas forcément. Mon père vient du Sud-Ouest, ma mère vient du Combrésie, du textile. Mm-hmm. Il faisait du macramé dans sa famille. Voilà, j'aime la région. J'ai fait mes études ici, j'y ai mes amis. Je suis proche de ma famille qui est du coin, et donc je suis assez attaché au lieu par mes amis, ma famille. Après, voilà, je m'y sens bien, ça c'est certain. C'est pour ça que je suis pas bougé.
Sinon, cette région a des rendez-vous intéressants avec le public, soit dans les salons comme ce Art Up, mais aussi des expositions, etc. Il y a une vraie richesse.
Ah oui, je trouve. Bah déjà, Lille, c'est une grosse ville étudiante, et donc il y a de toute façon, c'est pas fixe quoi. On rencontre toujours des nouvelles personnes. C'est un endroit qui bouge. Et puis d'un point de vue culturel aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. J'aime bien. Moi, je suis dans la campagne, à côté de Lille, mais j'aime bien cette proximité à la ville parce que c'est enrichissant. Il y a plein de choses qu'on n'aurait pas. Moi, j'ai vécu étant jeune dans la campagne. Il n'y avait pas la même richesse culturelle, et c'est vrai que rien que pour ça, j'ai pas envie de bouger.
Voilà, eh bien Antoine Dufilho, merci d'avoir fait le déplacement donc dans notre radio en direct pour présenter votre participation à Art Up, mais aussi votre travail qui est très intéressant. Moi, je le trouve très beau. Enfin, j'ai pris une très belle photo là, je suis très fier, qui est sur le site, mon site web en fait. Vous tapez Onde de Chine, quoi de neuf, et vous allez tomber sur le programme de l'émission où j'ai mis cette photo. Et je trouve dans un... Enfin, un univers particulièrement beau, particulièrement esthétique. Voilà. Merci donc pour votre intervention.
Merci.
Bon vent, hein, au travers de tout votre projet là, qui va vous amener un peu partout dans le monde. Merci beaucoup, Antoine.
Merci à vous. Au revoir.